7h14, M. McSwain, rebonjour.
Bonjour.
Alors, ton thème numéro un ce matin, c'est comment gâcher une carrière et une vie pour 100 000 $ américains.
Oui, je te dis 99 000 $ américains parce qu'il est arrivé une chose. Il y a un gars aux États-Unis, tu sais, qui sort d'université, qui travaille pour RBC Capital Market et qui est un grand criminel, pote. Il est un grand criminel. Non, non, il a pas fait comme le gars chez Desjardins, là, voler 3 millions de données puis vendre ça du bon. Non, non, non. Lui, il a fait un délit d'initié et il s'est fait prendre.
Explique-nous ça.
Un délit d'initié, c'est quoi? C'est quand tu commets délibérément une transaction. Hein, tu es un investisseur et tu as une information privilégiée. Comme par exemple, il y a un ami qui t'a appelé, qui travaille pour une compagnie puis il dit « Hey, il va avoir une acquisition sur telle affaire, achète tel titre. » C'est comme dans le film Wall Street. Ou bien que tu travailles pour une banque, un peu comme ce cas-ci, et tu sais qu'un de tes clients va faire une acquisition ou va se faire acquérir par une autre entreprise. Là, tu dis « Hey, je pourrais acheter des actions, ça va monter, puis je vais faire de l'argent. » Ça, c'est illégal, parce que t'as une information privilégiée que les autres n'ont pas. Alors, le kid sort de l'université, probablement avec des dettes d'études américaines, il dit « Tiens, je peux faire un petit montant rapide. » Donc, il a acheté des options. Hein. Le droit d'acheter un titre à un certain prix, et lui, il savait que ça allait monter. Alors, il l'a acheté pour un certain montant, 28 410 $, et il a fait un gain de 98 750 $ là-dessus. Avec ces options. Le problème, c'est que quand on fait des transactions sur des titres, tu sais, ici c'était Electronic for Imaging, ben, quand tu sais que cette entreprise-là a une transaction qui s'en vient, et que tu fais une transaction, t'es surveillé, on s'entend, on regarde tous les gens qui misent sur l'entreprise avant, et on se dit, mais qui sont ces personnes? Et lui, il avait caché un compte qui lui appartenait, et il a fait cette transaction-là. Et là, il risque 20 ans.
Ouais. Je vais te poser une question.
Oui.
Je lisais Michel Girard dans la presse ce matin. Puis là, je dis tout de suite aux avocats qui seraient tentés d'envoyer des mises en demeure, là, j'accuse pas, je prétends pas que. Mais c'est pas un peu bizarre ou troublant de voir le PDG d'Air Canada collecter 52 millions, il a le droit de vendre ses options, là, puis ses trucs, alors qu'il sait qu'il est en train de finaliser un deal qui va se traduire par 200 millions de plus à la table avec Air Transat.
Bon, là, quand on travaille dans des entreprises, normalement, on a des périodes de fermeture, hein, des périodes black, qu'on appelle, qu'on n'a pas le droit de transiger. Mais on peut tout de suite après, tout de suite avant. Et normalement, quand on travaille dans des entreprises cotées en bourse du genre, on s'assure d'être à l'extérieur de ces périodes-là. Maintenant, comme grand stratège, tu as un peu de l'idée où tu t'en vas. Donc, tu sais, c'est un peu, je nommerai pas nom, mettons qu'il y a une compagnie dans l'aviation, Paul. Hein, qui est dans l'aviation, elle fabrique des avions. Et elle dit, on va mettre en place un système pour vendre les actions de nos dirigeants. En plein été, au moment où les actions sont à leur plus haut, parce que les dirigeants veulent s'en départir. Je nomme pas nom.
Non, non.
On jase.
On est dans le domaine de l'aviation.
Plante, oui, au Québec, subventionné. Ouais. Et que ça plante les mois suivants. C'est pas un délit d'initié, Paul. Mais disons que ça paraît extrêmement mal ou ça envoie un signal aux autres actionnaires. Si les grands dirigeants liquident une partie de leur portefeuille, c'est que vous devriez peut-être y penser.
OK. Alors, avis à tous les avocats de ceux qui ont...
On n'a rien dit.
Non. Ceux qui peuvent se sentir interpellés par les propos des 4 dernières minutes, de rester tranquille. Il n'y a aucune accusation. Tu sais, je fais ça parce que je sais comment ça va virer.
Oui.
Parle-moi donc de ces deux titres qui te font titiller.
Oui. Premièrement, Beyond Meat, tu sais, ça a été une grosse affaire.
C'est encore une grosse affaire.
Oui, c'est encore une grosse affaire. Et c'est entré en bourse. Et tu sais, Paul, ça vaut 10 milliards en bourse, hein, américain. Puis juste te donner un parallèle, là, ça fait pas une scène, là. Mais ça vaut 10 milliards en bourse et présentement, Bombardier vaut 4 milliards en bourse. Donc, notre grande entreprise Fierté Fleuron vaut moins cher qu'un genre de start-up en fausse viande. Alors, ce qui est fou dans l'engouement de Beyond Meat, c'est que oui, l'action a monté là, spectaculaire. Là. On est rendu à 167$. Ça a monté jusqu'à 235$ cet été et on était au cours de l'année, un moment donné au début, là, autour de 45$. Et tout ça en quelques mois. Parce que les gens achètent la promesse que... la fausse viande va devenir la prochaine affaire et que Beyond Meat va avoir une espèce de position de domination. Mais ça, c'est prendre pour acquis que même si l'entreprise pour un trimestre perd 9 millions, elle va générer des centaines de millions en bénéfices dans les prochaines années. Alors, on prend comme pari que tout le monde va se tourner vers la fausse viande, alors que simplement le monde pourrait juste arrêter d'en manger ou continuer à manger. Mais c'est prendre pour acquis que tu sais ça va être ça là, l'avenir. Et ça, je trouve que c'est un pari pour l'investisseur qui est relativement spéculatif. Il pourrait avoir de la concurrence.
À court terme, en tout cas, c'est sûr que ça va marcher. Là.
À court terme, ça fait de l'argent au niveau, même en bourse. Les gens ont fait de l'argent, mais tu sais les chiffres en bourse, aux états financiers, c'est des pertes qui augmentent. Donc oui, les ventes augmentent, mais les pertes augmentent. Okay. Alors la question, c'est les nutritionnistes qui nous disent c'est pas si bon que ça finalement. Est-ce qu'ils vont gagner ou non? Deuxième point, Pinterest. Et ça, c'est drôle. Pinterest, c'est l'entreprise qui a des photos. C'est comme un réseau social de photos qui t'inspire en décoration puis en tout. Et l'entreprise perd pour un trimestre, Paul, pour un trimestre, 1,2 milliard avec des ventes de 260 millions. Donc, ça coûte vraiment cher. Et qu'est-ce qui arrive avec ça? Oui, on augmente le nombre d'utilisateurs, mais on fait pas d'argent et on dit en bourse, on va valoir très, très cher plus tard. Donc, on vaut très cher maintenant en bourse, mais en revenus, on a fait 10 fois moins que Facebook. Donc, les investisseurs de Pinterest veulent avoir une croissance incroyable. C'est à suivre.
Merci, monsieur. Bonne journée.
Salut.
Salut, 7h20.